sont bien accompagnés, c'est tellement mieux.
All right, salut, bon lundi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom c'est Marceau, je t'accompagne jusqu'à 14h en compagnie d'une fille qui est presque en vacances. Il reste 4-5 jours, là. Elle va, à tous les jours, elle va vous signifier qu'elle s'en va en vacances la semaine prochaine. Et à tous les jours, je vous promets que je vais dire une chose. Écœure-nous pas avec ton bonheur.
Je vais essayer. Non, mais c'est comme un gros bloc de deux semaines, mettons, là, qui est déjà entamé.
Ouais.
Dans une semaine, je pars en Italie. Fait que moi, cette semaine, je suis fébrile.
Ah ouais?
Et franchement de bonne humeur.
Ouais.
Après ça, on va se revoir, puis ça va être l'été.
Toi, là, tu ressembles beaucoup à la mère de mes gars.
OK.
Le bonheur, là, ça vous fait vibrer.
Ah!
Puis même si le voyage est prévu dans 6 mois... Tu commences à en parler maintenant.
Oui, ben non, mais ça, je pense que c'est une bonne chose. Parce que c'est pas pour écœurer le monde. C'est pour entretenir ce bonheur-là puis cette reconnaissance-là.
Hey Yann, je m'en vais en vacances dans 3 semaines. On s'en va à Cancun. Ah oh, ouais, OK, ben c'est cool. Hey, félicitations. C'est le fun dans 3 semaines. Oui, j'ai assez hâte!
C'est hot!
Ça va la faire! Je suis trop stable comme individu.
Oui,
quoi
ben,
qu'il y en a qui diraient que je ne suis pas pantoute puis que je suis dû pour l'asile, mais je suis un gars trop stable. Ouais.
Ben, t'es stable dans tes émotions, du moins.
Exact.
Je l'ai vécu encore en fin de semaine avec mon chum. On en a parlé plusieurs fois, toi et moi, de cette stabilité émotionnelle-là.
Oui.
Ben là, on est rentré dans la maison officiellement en fin de semaine.
OK. Il t'a dit d'être calmé, là.
Là, je vais t'écœurer avec mon bonheur. C'était probablement la plus belle fin de semaine de ma vie.
Ah oui?
Puis mon chum, je le sentais semi-déconnecté.
Semi-déconnecté.
Mais oui, puis moi, je l'énervais visiblement. Là, tu
ben, ça, c'est normal, oui.
Non, mais chaque chose qu'on faisait, là, c'était comme, on va à notre première épicerie qu'on va ramener dans notre maison.
Je le comprends très bien.
Puis à un moment donné, j'y ai dit, là, je suis comme venu un peu bête. J'étais là, sérieusement, t'es en train de tuer mon amour et mon bonheur. Là. Tu peux-tu comme être heureux?
J'adore ton chum. Tu l'as déjà dit?
Écoute, oui, tu me l'as déjà dit. Vous devriez vous trouver une chambre parce que des fois, je te laisserai.
Get a room! Non, on serait trop plat, je pense. On a besoin de gens colorés autour de nous autres pour ensoleiller notre vie.
Ah, c'est beau, ça.
Ouais.
Faut créer un équilibre.
Ouais. Fait que la fin de semaine, toi, c'était de rentrer dans la maison. T'as tout placé tes affaires. T'as reçu des boîtes?
Ben là, c'est sûr. C'est sûr, mais je te dirais que c'est très fonctionnel. C'est-à-dire que mon rez-de-chaussée est officiellement terminé. Il manque de la déco, là, mais tout est placé. La chambre est pas mal avancée. Mais un matin, il a fallu que je fouille dans les boîtes pour
chambre de bébé, tu fais?
La... Non, la chambre de bébé,
pas encore.
Elle est choisie, mais elle est pas faite. Je suis pas enceinte, OK?
Non.
Mais le pire, c'est que tu dis ça, puis c'est drôle parce que quand on a visité cette maison-là, la première pièce qu'on a vue en montant à l'étage, c'est cette chambre-là, puis on s'est dit, ça va être la chambre pour notre premier enfant, pour notre future famille.
Tu as déjà trouvé un prénom puis un nom de
gars? J'ai des listes, hein? J'ai des listes et des listes de prénoms. Fait que non, ça a été une grosse fin de semaine. Mais non, officiellement, on est bien installés. J'ai fait mon premier backwash de piscine, là, puis j'ai essayé de passer la balayeuse. Ça a été un échec. Oui, elle ne suce pas ma balayeuse de piscine. Elle ne siphonne pas. On va le dire de même parce que tu penses croche un matin. Elle ne siphonne pas. Fait que j'ai des enjeux de piscine.
Déjà, ils vous ont vendu une maison qui n'est pas parfaite.
Non, je pense que c'est moi qui n'ai pas parfaite avec la piscine.
Ça commence mal.
Honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai pris mon café sur ma balançoire ce matin avec mon chien qui était couché à côté de moi, avec la vue sur l'eau. C'est vraiment du gros bonheur.
J'ai pu le bonheur. À job.
Oui, mais ça, c'est pour autre chose. J'ai fait mes tests d'allergie ce matin. J'ai plein d'affaires à dire, Yann. On n'aura pas assez de cette émission-là.
OK. Ben, juste vous dire, à part les affaires Audrey, vous allez entendre. Là,
bienvenue dans l'open mic.
Bienvenue dans l'open mic. On a des billets pour cette band-là.
Ah oh, oui! Into pieces. This is my last resort.
Suffocation. No breathing. Don't give a fuck if I can't. Ils vont être de retour à Québec avec la tournée de Rise of the Roach. Le 22 juillet à l'Agora du Port de Québec, une célébration des 25 ans de l'album Infest.
Ça boucle la boucle, hein?
Exact. Les billets sont en vente sur evenco.ca. Donc, ne manquez pas Papa Roach et leur tournée. Je vais avoir une paire de billets offerts tirés au courant de l'émission. Faut rester à l'affût. Peut-être des histoires d'Audrey, de mes histoires ou encore des histoires des invités qui vont venir aujourd'hui parce qu'on va avoir deux bons invités, dont Jasmin Hinz, que j'aime bien, que j'ai rencontré plusieurs fois. Un animateur de radio. Je l'ai jamais rencontré. Une bonne tête de radio, c'est un gars hyper brillant. Puis il va être accompagné d'une formatrice qui s'appelle Alexandra Loranger, qui est intervenante à la Fondation du Centre de prévention du suicide. Donc 10h25 ou 10h30 peut-être. on est un peu plus habitués à 10h30.
Oui, c'est ça. Nous autres, on tarde. On dit 10h25, mais généralement, on est en retard.
Bon. Fait que t'étais faire tes tests d'allergie, toi.
Oui, bien, j'ai des allergies depuis toujours. Poisson, okay. Fruits de mer, des allergies mortelles. J'ai fait des tests plus jeunes. Je suis allergique. Ma mère est allergique. Ceci dit, j'ai appris des affaires un matin parce que je pensais que ça pouvait se passer. C'est pas nécessairement héréditaire. Ça n'a pas rapport. On pourrait penser que, mais c'est pas le cas.
Les allergies, c'est pas héréditaire. Oh, oui.
Non, tu peux avoir une prédisposition, évidemment, mais c'est pas parce que ta mère est allergique, par exemple, poisson, fruits de mer, qu'automatiquement, tu vas l'être. Là. C'est pas génétique, cette affaire-là. Fait que je me suis présentée là-bas ce matin parce que ça fait plus que 20 ans que j'ai pas passé des tests d'allergie.
Oui, moi, ça fait 40 quelques années, là.
Mais toi, t'es allergique à rien.
Je sais pas.
Tu le sais, ben là,
quand je vais le savoir, tu vas le savoir, ça va être fini.
Tu l'aurais su bien avant. Là. Fait que j'ai ces allergies-là qui pourrissent la vie de tout le monde autour de moi.
Je suis allergique aux gauchistes. Québec solidaire.
Ça, c'est trop facile.
Ça, c'est clair, ça me pique partout.
Ouais, je comprends. J'en ai des allergies de même aussi, mais c'est pas le même genre.
Non.
C'est pas le même genre.
Toi, c'est qui? C'est tes patrons?
Non, quand même, là.
Denis Gravel?
Jamais sans mon avocat. Fait que j'ai des allergies mortelles depuis des.
Safia
Nolin.
Ouais, je suis allergique à Safia Nolin aussi.
T'es niaiseux.
Ah, oui.
Petite. Et ces allergies-là, ça pourrit la vie des gens autour de moi parce que, tu comprends, mon chum, depuis qu'on est ensemble, peut pas manger de poisson fruit de mer.
Okay, mais qu'est-ce que ça fait? Il peut manger quand même du poisson fruit de mer. Non. Il n'y a juste pas de Frenchie.
Ben non, ben OK. Yann.
Quoi?
Mais je pense que tu ne saisis pas à quel point. Tu peux pas prendre de chance, là.
Okay.
Il a beau se brosser les dents, là, je veux dire, tu peux pas prendre de chance. Il reste une petite crème de molécule où il y a de quoi de pogner entre les dents qui n'est jamais parti pendant le brossage.
Ça s'en va quand, ça, ces allergies-là, une fois que tu l'as? Mettons là, que tu as mangé du poisson, là, ça faut qu'il prenne combien de temps avant de te donner un bec?
Mais là, je veux dire, j'imagine que c'est relatif, là, mais je sais que ma mère, parce qu'elle a déjà fait plusieurs crises d'allergie, quand mon père, mettons, va à chasse puis qu'il se gâte là, dans toutes les portes de fruits de mer qu'il peut pas, là, et normalement, elle est comme un bon deux semaines sans toucher. Là. Ben non, mais c'est ta vie qui est en jeu.
Okay.
C'est ta vie.
Hey,
c'est pas drôle, là.
Hey, moi, ça serait pas long, hein. Chérie, viens dormir. Vois ça. Voilà, ta seringue d'épipène est là.
Au cas où.
Moi, ça fait deux semaines, je suis dans le bois. C'est ta!
C'est angoissant, pour vrai. Et là, ben, j'avais commandé ça, ces tests d'allergie-là, il y a 3 ans, en passant.
Ouais.
Quand j'ai reçu l'appel, là, il y a deux semaines, là, je comprenais pas pourquoi on m'appelait. Puis elle me dit, ben, en 2021-22, là, avec le docteur Warren, vous aviez demandé de passer des tests. Oh, tabarnouche, OK, ça fait 3 ans, puis c'est là qu'on m'appelle. Génial. Fait que j'ai pris mon rendez-vous, puis ben, c'était ce matin. Fait que là, ce matin, j'avais un bras qui était réservé aux allergies de base, là, chat, chien, puis toutes les pollens et compagnie. Là. J'ai réagi fortement, puis j'avais un bras qui était pour les poissons et les fruits de mer. Puis là, ben, c'est plate parce que j'aurais aimé ça de dire, je suis plus allergique ou je suis allergique, mais j'ai eu des bonnes rougeurs. Puis ça piquait, mais pas assez boursouflé pour qu'elle soit capable de dire quoi que ce soit. Fait qu'il faut que je passe des tests sanguins. Mais c'est bien fait. Là. En dedans de 10-15 minutes, tu es capable de savoir à quoi tu es allergique. Comment ça fonctionne, c'est qu'on fait des bords de crayon sur ton bras. Puis on vient déposer des gouttes dans le fond.
Ben montre-moi les dons, là, je veux le voir.
Ben là, okay, je vais détacher ma chemise.
Ah, oh, détache ta chemise.
Là, tu vois, ça commence, c'est plus rouge. Là, je suis encore boursouflée à quelques endroits, mais okay. J'ai des traces de crayon. Puis toutes ces traces de crayon-là sont associées, dans le fond, à un aliment ou à une composante quelconque, le pollen et compagnie. Puis ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent déposer une goutte.
Ouais.
Puis ils viennent avec une aiguille te graffiner pour que ça pénètre dans ta peau. Puis c'est pas long, moi, de dire que t'enfles, t'as le bras qui pique, t'as envie de t'arracher la peau, mais t'as pas le droit de te toucher, évidemment. Là. Fait qu'après ça, ben là, eux autres, au bout de 15 minutes, t'es capable de lire avec une règle, dépendamment d'à quel point c'est boursouflé, ton allergie est à combien sur 10. Fait que moi, ce qui est chat, mettons, c'est venu, là, écoute, j'en avais dans l'entrecoude, j'étais rouge sur un méchant temps, puis boursouflé sur un méchant temps. T'sais, tout ce qui est pollen acarien, gazon et compagnie, full rouge, full enflé. Puis comme je t'ai dit, ben de l'autre côté, ce qui est particulier, c'est que là, j'avais comme juste des rougeurs.
T'as de
dans
l'air
le fond.
Vraiment d'une toxicomane, c'est malade.
Ben là, c'est sûr, là, il perce le bras, là. Fait que non, mais c'est quand même, c'est bien fait pour vrai, c'est rapide.
Vraiment?
C'est vraiment rapide.
Ça coûte combien, ça?
Ben non, mais ça, tu passes, j'ai pas attendu 3 ans pour rien, Yann. Je suis allée au public, c'est sur ma carte d'assurance maladie. Vous pouvez aller au privé, ceci dit.
Ça a pris 3 ans faire tes tests d'allergie.
Avoir le rendez-vous, ça a pris 15 minutes.
D'un autre côté, c'est pas super urgent, là, mais n'en demeure pas moins que je m'attendrais à ce que ça prenne quelques semaines, mettons.
Ouais, ben non, 3 bonnes années, là.
Ouais.
Mais vois-tu, là, étant donné que j'ai des tests sanguins à passer, ça, c'est 8 semaines d'attente, le temps qu'ils fassent les analyses et compagnie, puis ça presse pas pour eux, là. Mais non, fait que c'était quand même une grosse journée, parce que si je suis plus allergique aux poissons fruits de mer, Yann, ça veut dire que ça fait probablement des années que je fais dorner mon monde autour de moi, et des années que je m'empêche d'aller dans des restaurants, des années que je m'empêche de manger certaines affaires en voyage, mm-hmm, ou dans certains endroits par peur qu'on comprenne pas que je suis allergique mortellement, des années que je traîne mon épipène ou pas, dépendamment des jours. Fait que ça serait gros, là.
Ouais.
Tu sais, je sais que pour quelqu'un qui n'est pas allergique, ça veut rien dire. Non. C'est comme des buzz, là. Mais pour quelqu'un qui est allergique, c'est un monde qui s'ouvre demain matin.
Exact.
Si j'ai plus d'allergie, là. Fait que c'est fou, là.
Je te le souhaite.
Ben, mais t'es fin.
Surtout pour ton chum, ça y enfant chienné sa vie pareil.
Il s'est habitué avec le temps, je te dirais. Il n'y a rien qui rentre à la maison.
Ton chum mange pas de poisson et pourtant tu manges au restaurant. Je comprends pas.
Ben oui, je peux manger au restaurant, mais là, ça dépend où, parce que c'est pas dans tous les restaurants que je mange. Puis quand je mange dans des restaurants où, par exemple, il y a des poissons fruits de mer, il faut que je m'assure de, un, le mentionner, mais deux, que ce soit pas les mêmes friteuses, ouais, qu'il y ait des endroits différents dans la cuisine. Fait que c'est un processus aussi. Les gens peuvent manger au restaurant en passant, même s'ils ont des allergies, là. C'est vraiment juste de faire attention à où tu vas, là. Puis ça dépend de ta force d'allergie. T'sais, moi, ma mère est vraiment fortement allergique, puis elle peut pas manger dans aucun restaurant, là. Le moindre contact peut l'envoyer à l'hôpital. Tu sais, au Saguenay, il y a le Festival des vins spiritueux, OK? Et il y a quelques années, pour vous donner une idée de l'ampleur de ce que ça peut prendre, il y a quelques années, ma mère va dans ce festival-là. On est toute sa rue Racine. On prend un petit coup, tu comprends, de kiosque en kiosque. Et Mario Pelcha a un vin. Ma mère goûte au vin de Mario Pelcha parce qu'elle aime bien Mario Pelcha. Puis probablement dans le procédé, dans la façon ou les cuves dans lesquelles c'est fait, il y avait quelque chose visiblement. Parce que tu vois, elle a bu le vin. Pis c'est une chance que l'hôpital est à côté d'ailleurs. Ça a pris 5 minutes, grosse crise d'allergie. C'est anaphylactique, là.
Ouais.
Fait que ça y a pogné dans la gorge, puis plus respirer. Et puis peine, ciao, ciao, mais qui est mort. On l'a perdu pour la journée, elle était hospitalisée.
Ça m'est arrivé une fois, je pense que je t'avais pas compté ça, là. Ça m'est arrivé une fois au resto. Qu'une personne, c'était pas ma cliente, là, mais une personne avait fait une grosse allergie. Puis c'était les ambulanciers qui sont débarqués pour l'embarquer sur la civière puis l'amener.
Ah, c'est complètement paniquant, là.
Pass out, ben raide.
Oui, c'est complètement paniquant. Moi, je suis vraiment chanceuse par le fait que ma mère avait des allergies. Elle nous a fait tester jeune. C'est jamais rentré dans la maison. On a été éduqués là-dessus assez rapidement. J'ai jamais fait de crise d'allergie alimentaire. Je le souhaite pas non plus, moi, être bonne honnête avec toi, là. Plus jeune, j'ai réagi à une salade César à cause de la pâte d'anchois qu'il y a dans la sauce. Faut que tu le saches, là. À part ça, là, j'ai eu la chance de jamais faire de grosses crises. Mais imagine, là, ça prend pas de temps, ça t'attaque à la gorge, tu peux plus respirer. Là.
Non, non, c'est sûr.
T'es fou, là.
C'est sûr. Hey, j'ai une histoire à te raconter. Je vais en parler avec Maître Bellemare ce soir. Puis peut-être qu'ensemble, on pourra se dire qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans cette situation-là. Moi, je suis quelqu'un qui protège beaucoup mon entourage.
Oui.
Je pense que je suis quelqu'un qui est, comme tout le monde, en fait, mes frères, mes sœurs, mes amis, ma famille, mes enfants, je protège beaucoup mon petit cercle. Puis, si jamais il ferait quelque chose de criminel, je me poserais la question dans certains cas. OK? C'est-à-dire, exemple, s'ils font, je sais pas, ils volent. OK?
Oui.
Puis je me rends compte qu'il a volé, je serais peut-être tenter de le persuader d'aller lui-même reporter ce qu'il a volé,
ouais,
ou d'aller se dénoncer. Mais exemple, là, une agression sexuelle, c'est sûr que je dénonce. Tu comprends? Je sais, c'est lui l'agressé. Mais je suis quelqu'un qui protège beaucoup mon entourage. Puis dans le journal Le Soleil, on parle d'un cas d'une dame qui a été embauchée. Tu sais, pendant la pandémie, on recherchait des préposés aux bénéficiaires. Là.
Oui.
Puis on leur donnait une formation ultra rapide pour, oui, devenir préposé aux bénéficiaires du jour au lendemain. Après cette formation-là, ben, y a une dame qui est embarquée dans cette formation-là. Puis après ça, après quelques semaines de travail, dû aux tâches répétitives et aux mouvements répétitifs, elle a embarqué sa CNESST. Puis pendant plusieurs mois, elle était à CNESST, puis là, elle s'est dit, tiens, je peux faire de la moto, moi. Donc, elle a pris son permis, son cours pour passer son permis de moto. Elle s'est acheté une moto, elle faisait des petits voyages, puis ça tannait un peu sa mère. Sa mère qui était sa voisine. Et sa mère savait pertinemment que madame était sur la CNESST parce que... Écoute, elle travaillait comme préposée aux bénéficiaires, elle faisait des tâches répétitives, avec les articulations, ça lui faisait mal, donc elle travaillait plus.
OK.
Fait que là, elle, quand même, appelletait son entrée, appelletait son stationnement, elle allait faire un voyage, elle a fait le tour de la Gaspésie.
Fait qu'elle aidait sa fille pendant que sa fille vivait sa best life, on va le dire comme ça.
Sa fille a pris son permis de moto. Elle s'est acheté une moto. Puis en plus, sa fille, pelletait qu'elle était sur la CNSST, elle pelletait son entrée à elle. Elle faisait comme si elle n'avait rien, finalement.
Ouais.
Sa mère était tellement achalée de ça qu'elle a appelé à la CNSST pour la dénoncer. Pour dire, ma fille est à la CNSST, je pense que c'est une fraudeuse. Ce qui a fait en sorte que les inspecteurs de la CNSST sont débarqués. J'imagine que c'est des détectives privés. Là. Il y a des détectives privés qui font ça. Arrive avec la caméra, se parque devant chez toi. Puis là, toi, tu sors avec ta moto. Puis là, tu mets ton casque, fait que tu lèves tes bras. Tu mets ton casque sur ta tête, fait que tu baisses tes bras. Après ça, ben si tu fais le tour de la Gaspésie, ça prend une couple d'heures. Fait que l'inspecteur est en arrière, le détective privé est en arrière, puis là, il te filme. Pendant que tu es en train de conduire, les bras bien tendus, ça a l'air de bien aller, tu t'en vas au restaurant, tu manges, t'enlèves ton casque, tu replaces un peu tes cheveux, tes bras dans les airs, les épaules travaillent, tout.
Ça va bien.
Tout va bien. Après ça, t'en reviens chez vous. Quelques semaines plus tard, la neige commence, tu pelles ton entrée. Tu as des meubles à déménager, tu passes du cabanon à la maison sans aucun problème. Puis là, ben, l'inspecteur, lui, il a tout ça.
Fait qu'il peut prouver que probablement tu mens.
Fait qu'avec la dénonciation de sa mère, elle a été rencontrée par les gens de la CNESST. Ils ont dit, hey, finalement, ça va-tu? Elle dit, oh oui, ça semble un peu bien aller. Là, je vais revenir à la job. Elle revenait à la job quelques jours. Elle dit, non, finalement, ça va pas. Elle est retournée sur la CNESST. Puis après ça, quand ils ont laissé une chance, ils sont quand même bons, là. Ils ont laissé une chance. Ils l'ont rappelé pour dire, alors finalement, présente-toi au bureau. T'as-tu de la moto, toi? Ah oui, je fais de la moto. OK. Dans quelles circonstances tu fais de la moto? Ah, j'embarque en arrière de mon chum, puis c'est lui qui me promène.
Mmh.
Ah ouais. Parce que regarde ces images vidéo-là, t'as fait le tour de la Gaspésie, puis t'as de l'air pas mal de seul, c'est ta moto. Puis là, ben, elle est obligée d'avouer qu'effectivement, c'est un mensonge, puis qu'elle avait son permis de moto, puis qu'effectivement, elle déneigeait, puis qu'effectivement, elle faisait divers travaux alors qu'elle était sur la CNESST. Puis là, ben, tu comprends qu'elle a perdu la CNESST, puis elle va devoir probablement rembourser. L'histoire ne le dit pas, mais ça se fera probablement dans les prochains mois. Serais-tu porté à dénoncer quelqu'un de ta famille, toi?
Non.
Qui fait ça?
Non. Je dirais ma façon de penser, oui. Mais ça me regarde pas.
Ça, c'est parfait. Mais je te connais, c'est ça que tu dirais.
Non, mais dans le sens que...
Il est tellement bête.
Je suis vraiment bête d'envie. Non, mais je pense que j'aurais le besoin de faire savoir à mon proche que là, c'est un peu ridicule ton affaire, là.
Ouais.
Ou change de job si t'as ça à ce point-là, là. Mais je pense pas que je prendrais de mon temps personnel pour ne pas me mêler de mes affaires, créer une relation de merde avec mon proche, le dénoncer. C'est intense un peu, là. Visiblement, eux autres, probablement que l'histoire partait pas de là, là. Ils devaient pas s'aimer à la face depuis un bout de que ça en vienne là.
Parlais avec Maître Bellemare un matin, j'ai dit que ses parties de Noël allaient être plates à l'avenir. Là.
Ben, tu sais.
Mais on s'entend que c'est un geste qui est illégal, Audrey.
Ben oui, c'est illégal, mais je veux dire...
Moi, j'étais un père de famille, mes gars font ça, de un, ça me met en sacrament.
Ben oui, mais tu le dénonces pas.
J'en parle à mes gars.
T'es sûr?
Plusieurs fois.
Ta job est faite.
Tu es en train de te bâtir une maison, puis tu te dis que tu es blessé, tu peux pas être menuisier, là, ça marche pas. Là, ça fonctionne vraiment pas, ton affaire. Ouais, mais papa, j'ai encore besoin de vacances. OK, je te laisse un mois. Je pense que je le ferai.
Tu dénoncerais tes gars?
Après plusieurs avertissements, je pense que je le ferai.
Moi, je pense que j'inciterais mon proche, à la limite, juste à si tu as encore besoin de vacances parce que mentalement, tu es sauté raide, là, demande un arrêt de travail. Pour problème de santé mentale, tu comprends? Là, prends un break, t'as le droit d'avoir des vacances, c'est correct, ça, là. Mais t'inventer des mots, c'est un peu crosser le système, là.
Je pense que je le ferais. Ça me tannerait tellement. De un, je serais en maudit parce que mon gars fait ça, puis comme tous les parents, « Hey, je l'ai pas élevé de même! »
Sois vraiment honnête.
Ouais, je pense que je le ferais.
Probablement que
après
ton gars
après plusieurs avertissements...
Hey, je pense que Yann, tu briserais ta relation avec ton gars.
Après plusieurs avertissements, je dis, « Josh, je te laisse 5 jours, puis tu retournes travailler. » Tu sais, mettons que ça fait 6 mois que ça dure, là, puis que je l'avertis à tous les semaines. Je te laisse 5 jours, puis après ça, je vais moi-même montrer des photos à la CNSST pour dire que tu es en mesure de travailler. Je te laisse 5 jours. Je t'aime. Bye.
Oh, ouais.
Oui, oh, ouais, vraiment. On prépare nos enfants à faire face à la réalité de la vie. Si jamais un de tes enfants, c'est un hostie de crosseur, ben excuse-moi. Tu dois y donner une leçon supplémentaire même quand il est rendu à l'âge adulte.
Ouais. Je sais pas. Hey, je trouve ça tough parce que vite demain, moi, c'est... je me dis ma job est faite de t'en parler puis de te dire que je te trouve ridicule. Puis ma job est faite de t'aider si t'as vraiment besoin de vacances, à rediriger puis faire ça de la bonne manière. Mais de là à m'en mêler, puis à perdre mon temps, à monter un dossier pour... Et tabarnouche! J'ai vraiment de l'énergie à mettre ailleurs, là.
Ouais. Mais ça vient nous chercher à l'intérieur, quand on est parents puis nos enfants...
T'es pas le seul en passant, les gens sont d'accord avec toi.
Quand on est parents puis nos enfants ne comprennent pas, on est toujours là pour les protéger. Mais quand après 3 mois, après 6 mois, que tu lui dis à tous les semaines, là, t'es en train de frauder le gouvernement, t'es en train de me frauder moi, t'es en train de frauder ton frère, t'es en train de frauder ta mère, c'est un pote, là, t'es en train de frauder tout le monde, je vais te dénoncer dans 5 jours. Il te reste 5 jours, mon homme, de vacances. C'est fini, c'est terminé.
C'est peut-être aussi, c'est plate ce que je vais dire, là, c'est peut-être aussi que pour moi, c'est tellement une fraude cachée, c'est tellement comme une fraude blanche, là, je vais l'appeler comme ça, là, dans ma... T'sais, qu'on dirait que c'est comme si vite de même, ça pèse moins dans balance que si il va littéralement voler à l'épicerie.
Ouais, mais c'est-tu ce qui m'achale?
Tu comprends ce que je veux dire?
C'est-tu ce qui m'achale? C'est que 99,9% des gens qui sont sur la CNESST en ont besoin.
Absolument. Je suis d'accord avec toi. Là.
C'est le 0,01% qui vont faire mal paraître la majorité des gens qui sont sur la CNESST.
Ouais.
Tu sais, quelqu'un qui fait le pas entre les deux oreilles, puis qui tombe sur la CNESST à un moment donné parce que ça va crissement pas, combien de gens vont dire, regarde, des vacances, là.
Ouais.
Il voulait des vacances. Il voulait 6 mois de vacances. Ouais. Il voulait 8 mois. Tu sais, ma blonde me le dit souvent, parce qu'elle travaille avec des gens qui ont des troubles en santé mentale. C'est une infirmière clinicienne. Puis elle me le dit souvent, tu sais, Yann, quelqu'un qui s'est cassé une jambe n'est pas en mesure de travailler, tu sais, si c'est un menuisier, exemple.
Ouais.
Il s'est cassé une jambe. Visuellement, tu le vois, là. Il a une jambe cassée, il est dans le plâtre, il est en béquille, il a de la misère à marcher. Mais quelqu'un entre les deux oreilles qui est cassé, là...
Tu le vois pas.
Tu le vois pas.
Mm. Faut que tu fasses confiance.
Voyons, s'il est correct, il s'en va marcher dans la rue, le gars, il s'en va, sa promenade, sa
meule de
champagne.
Ça, c'est tellement ironique, Yann, là, parce que quand tu y penses, le monde qui sont brisés entre les deux oreilles, là, le but de prendre un temps off, là, d'être en arrêt maladie, là, le but, c'est que tu puisses aller t'aérer le cerveau, te retrouver, retrouver ce qui t'allume comme humain puis qui te fait du bien pour être capable de reprendre une vie normale. Puis on a tellement un jugement contre ces gens-là qui vont prendre un congé, puis tout d'un coup, on va croiser, genre, à l'île d'Orléans en train de cueillir des pommes, tu comprends?
Ouais.
Parce qu'on se dit, t'es pas censé être malade, toi, t'es pas censé t'enfermer chez vous, tu fais le pont entre tes deux oreilles, t'es pas censé broyer puis être dans ton lit.
Mm-hmm.
Ça me fascine, moi, à quel point on juge ces gens-là. Puis le pire, c'est que tu te sens coupable aussi quand t'en prends. Là.
Fait que ce qui est vrai pour Pito est vrai aussi pour Minou, c'est vrai pour mes enfants. Fait que je les protège jusqu'à temps que je me rende compte qu'ils comprennent pas, puis ça leur prenne le son. Puis je pense qu'au bout d'une couple de semaines, quelques mois, je les dénoncerai moi aussi. Fait que ce matin, je parlais avec Maître Bellemare, on était dans nos voitures, puis on parlait de ce cas-là, là. Puis j'ai demandé, tu sais, Maître Bellemare, vous en rencontrez combien de crosseurs, tu sais, des dossiers de CNESST, là, vous en rencontrez combien? Il dit, des crosseurs, il n'y en a pas souvent. Mais dis-moi, il y a une chose, par exemple. Il dit, quand c'est un crosseur, je ne le prends pas. Mais de deux, quand je sais que j'ai pas de chance de gagner, parce qu'il dit, moi, je suis un gagnant. Maître Bellemare dit, moi, je suis un gagnant dans la vie, il part. Ben, je dis à mon client, écoute, t'as bien beau me faire croire que sur les photos, c'est ton frère, jumeau, qui est pas retraçable. Mais moi, ce que je vois, c'est que le gars te ressemble beaucoup. Il a ton manteau, il a tes culottes, il a tes souliers, il marche comme toi. C'est toi. Fait que j'irai pas en cours avec un juge pour dire que...
Ah, mais je respecte ça, tu vois.
Tu comprends? Maître Bellemare, il est droite.
Si je te crée pas, je te défends pas.
C'est ça. Mais en fait, lui, il veut juste faire respecter les droits de son client.
Ouais.
Qu'il croit ou qu'il croit pas, c'est pas important. Mais lui, s'il se rend compte qu'il y a une petite crosse... Ben, devant le juge, il fera pas semblant que c'est pas une crosse.
C'est
là. Fait que s'il n'y a pas de chance de gagner, il y va pas.
Ça doit être le bout le plus dur d'un avocat, ça.
Hey, non, au contraire.
Hey.
Il n'y a rien de mieux que de confronter un crosseur.
Oui, ça oui, mais c'est parce que quand tu dois te défendre un crosseur.
Mais tu le défends pas. Parce que t'as un désaccord avec. Là.
Ben, OK, dans le cas de Maître Bellemare,
perte de confiance.
Combien d'avocats, par exemple, vont quand même défendre leurs clients parce que c'est leur droit?
Ouais, quand ça fait une couple d'années qu'ils pratiquent et ont leur clientèle, là, ils peuvent se permettre de choisir les bonnes personnes plutôt que les tout croches.
Mais ça doit être difficile quand même, honnêtement. Là,
exact.
Chapeau.
Aujourd'hui, on reçoit le Centre de prévention du suicide, Audrey.
Oui, bien en fait, on reçoit Alexandra Loranger, qui est formatrice intervenante à la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec, puis Jasmin Haynes, qui est endeuillée du suicide de sa sœur. Le but aujourd'hui, en fait, de l'émission, là, on en a parlé pas mal, mais on est en campagne en ce moment avec le Centre de prévention du suicide de Québec, parce que pas nouveau, c'est pas une surprise à Boulevard, c'est toujours une cause qu'on a énormément supportée. Tu sais, en début d'émission, tu parlais qu'on avait des billets pour Papa Roach. Quand on a reçu Jacoby Chadix puis son guitariste en bas à la Seine-le-Bourgneuf, c'était sous le couvert de la prévention du suicide, c'était sous le couvert de la santé mentale chez les hommes. Fait que c'est une cause qu'on suit depuis toujours. Puis je pense que le but aujourd'hui, c'est un de, oui, donner les ressources en parlant avec Alexandra Loranger, mais aussi parler un peu de l'impact que ça a chez les proches, parce que c'est souvent quelque chose qu'on traite peut-être un peu moins, que les gens qui vont mal ne voient pas aussi. J'ai l'impression que la détresse est tellement grande que tu penses pas à tes enfants, ta sœur, ton frère, tes parents, à ce que tu laisses derrière. Et pourtant, ça laisse des très, très grandes traces. Fait que c'est de ça qu'on jase ce matin. C'est peut-être un peu plus lourd pour un lundi, mais regarde, faut en jaser. Ça fait partie de la game. 88-971-1021. Vous avez des histoires, vous avez envie de jaser. Vous hésitez vraiment pas. C'est pas mal l'émission pour ça aujourd'hui. Là.
Yes! Jérôme 50, la plus belle fille du Mosh Pit sur les ondes de boulevard. On a vraiment de la belle visite en studio. On va vous les présenter dans les prochaines secondes. Actuellement, à la météo, il n'y a pas de pluie. C'est la bonne nouvelle, Audrey.
Ben oui, on la sent venir tranquillement, pas vite, mais elle n'est pas là encore, effectivement.
C'est 20 degrés sur Québec pour aujourd'hui. C'est du soleil toute la journée avec un maximum de 25. Pour ce qui est du facteur humidex, ça va être une température ressentie de 28 selon Environnement Canada. Ce soir, cette nuit, des nuages avec un minimum de 15 degrés. Mardi, c'est des averses avec risque d'orage en après-midi. Pour ce qui est de demain, maximum de 19. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23. Pour nous joindre en studio, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, vous êtes nos yeux, nos oreilles.
Je dirais qu'en ce moment, sur la 20 direction ouest, semble y avoir un bon ralentissement à partir de la route Lagueux. Si vous avez des détails, 88-971-1021, je suis en train de regarder s'il se passe quelque chose de précis, mais ça ralentit pas mal dans ce coin-là. Pour le reste, ça va super bien.
On parle avec le Centre de prévention du suicide, la belle gang du Centre de prévention du suicide. J'ai deux personnes en studio, Alexandra Loranger, qui est formatrice intervenante à la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec. Salut!
Bonjour, bon matin.
Merci d'être en studio avec nous, c'est très, très apprécié. On va parler, bien entendu, du Centre de prévention du suicide puis des services que vous offrez. Et j'accueille Jasmin Haynes, qui est une des plus belles voix de radio qu'on a à Québec. Un gars qui a fait de la radio pendant des années et des années. Qui a été au Collège Radio-Télévision de Québec pendant quelques années en tant qu'enseignant aussi. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Très content de t'accueillir en studio. Toi aussi, tu es avec nous pour le Centre de prévention du suicide. Dans ton cas, tu as été touché personnellement par quelqu'un qui a malheureusement pris ce choix-là. On va commencer avec Alexandra. Alexandra, le Centre de prévention du suicide, qu'est-ce que vous offrez comme service exactement?
En fait, ben le premier service, la base, c'est notre ligne de crise téléphonique, en fait, donc la première ligne. Donc, à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut communiquer avec nous via le 1-866 appel. Suite à ça, ben on offre divers types de rencontres, là. Donc, on a toujours la possibilité, nous, ici à Québec, on a des plages horaires réservées pour accueillir des gens en crise à tous les jours. Donc, par le biais de notre ligne téléphonique, vous pouvez prendre un rendez-vous rapidement. On offre du suivi aussi pour les personnes qui ont des idées suicidaires, mais aussi pour les gens qui sont endeuillés par suicide. Donc, on parle d'environ un 10 rencontres. Puis, bien entendu, on fait aussi de la postvention. Donc, si jamais il arrive un décès par suicide dans une famille, dans une entreprise, on se déplace dans les jours suivants le décès pour rencontrer les proches, faire des interventions. Puis l'objectif, c'est de limiter, en fait, les symptômes de stress post-traumatique suivant le deuil, là, effectivement.
Y en a-t-il beaucoup des gens qui, après la perte d'un proche qui s'est enlevé la vie, eux-mêmes tombent un peu au fond là, du gouffre, si je peux le dire comme ça, là?
Oui, absolument. Là, c'est quand on est happé, je pense que je peux le dire comme ça, là, par un deuil, par suicide, par défaut, je pense que ça met plein de choses en perspective. Puis c'est pas rare que les endeuillés par suicide vivent eux-mêmes aussi avec des idées suicidaires suivant le deuil de leur personne proche.
C'est comme une spirale, c'est de l'incompréhension. On va en parler avec Jasmin dans les prochaines secondes. Mais pour ce qui est du centre de prévention du suicide, il y a combien d'employés? Est-ce que c'est des employés, des bénévoles? Comment vous fonctionnez?
Bien, on est tous des employés professionnels depuis pas loin de 20 ans, si c'est pas un peu plus. Ouais. Dans certains centres au Québec, il y en a qui ont encore des bénévoles qui sont supervisés par des équipes, bien entendu, d'intervenants spécialisés. Donc, on est tout type d'intervenants. Donc, il y a des techniciens, il y a des bacheliers, on a des doctorants aussi qui viennent travailler avec nous pour à la ligne téléphonique, mais aussi à nos suivis en personne, là, nos rencontres individuelles. Donc, oui, effectivement, là, on est tous des professionnels.
OK. Est-ce que c'est lourd pour vous autres? Tu sais, répondre au téléphone avec des gens qui veulent mettre fin à leur jour, ça, tu sais, à long terme, ça doit être lourd.
Bien, effectivement qu'on accueille beaucoup de détresse, mais moi, ce que je trouve beau dans mon travail, c'est aussi toute la résilience qu'on remarque chez ces clients-là qui nous appellent, chez les proches aussi. Il y a beaucoup de beau en prévention du suicide, puis nous, on travaille avec la partie de la personne qui veut vivre, hein, qui est encore là, ouais. qui continue de se battre, avec l'espoir, en fait. Moi, c'est ça mon travail.
Et c'est rare qu'on entend ce pan-là. D'habitude, ça sonne plutôt négatif. Là.
Faut juste poser les bonnes questions.
T'es tellement bon, Yann, t'es tellement bon.
Vous recevez à peu près combien d'appels par année au Centre de prévention du suicide?
Aux dernières statistiques, je crois que c'est aux alentours de 24 000. Puis on parle de la ville de Québec, le capitale nationale.
24 000.
Oui.
Puis ça, est-ce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7?
Absolument. Puis par jour, c'est aux alentours de 70 appels par jour ici, capitale nationale.
C'est-tu vrai qu'on peut texter maintenant?
Absolument. Donc depuis octobre 2020, il y a un nouveau service qui a été lancé, hein, suicide.ca. Donc on peut rejoindre par texto, par clavardage, un intervenant 24 heures sur 24 en prévention du suicide. Puis le numéro par texto, c'est le 53 53 53.
Jasmin Hince, depuis des années, je te vois passer, tu t'impliques dans plein de choses. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose de tragique dans ta famille. Mm-hmm. C'est le décès de ta sœur par suicide. Ouais. Je vais t'avouer que on se connaissait pas nécessairement personnellement. Non, on se croisait à certains endroits, mais tu sais, quand ça touche quelqu'un que tu connais, que tu as déjà croisé dans ta vie, tu as comme un certain malaise à parler de ça avec cet individu-là. T'sais. En même temps, tu sauras me dire si ce malaise-là, il a raison d'être, mais tu sais, quand je t'avais croisé, la dernière affaire que je t'aurais parlé, c'est « Hey, comment ça va, t'sais, ta sœur qui s'est suicidée? » Fait qu'on a comme tout fait, pour la plupart, là, des gens qui étaient dans ton entourage, je parle pas des gens proches, mais des gens qui étaient un peu à l'extérieur. Mais comme tu te dis, on va laisser passer les choses, puis après ça, quand on va le croiser, on fait semblant de rien.
Okay.
Fait comme ça, on le fera pas souffrir, Jasmin.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, je comprends.
Tu comprends?
Est-ce que tout à fait, mais c'est un
réflexe. C'est un bon réflexe d'avoir ça, Jasmin.
C'est un bon réflexe. Ben moi, je disais que si je me ramène aux funérailles, vous allez voir où je m'en vais avec mes skis, mais c'est que j'ai l'impression que le deuil commence après les funérailles, parce que là, tout le monde reprend sa vie.
Oui.
Puis on dit un jour, je parlais à Jasmin, puis là, je dis Jasmin, mais ça peut être n'importe quel endeuillé, vous comprenez que j'extrapole, là. Mais c'est qu'après ça, on reprend nos vies, puis là, le temps passe, puis peut-être que, je sais pas, Jasmin, Hince ou quelqu'un d'autre, elle disait, j'aimerais ça lui en parler un jour. Puis là, finalement, ça fait 2 ans que je me suis dit que j'allais lui en parler, et le temps est passé, puis il y a un tourbillon dans la vie, ce qui fait que, ben je pense que c'est d'y aller comme on le sent, mais j'invite les gens quand même des fois, « Hey, je voulais lui jaser un petit quelque chose, il y avait quelque chose, tu sais, de trouver le bon moment pour prendre le temps de jaser, parce que, tu sais, on se connaît pas beaucoup,
non.
Yannick, mais... c'est sûr que il y a des gens qui sont un peu plus proches, il y a des amis, tout ça, mais j'invite toujours les gens quand même à trouver le bon moment pour adresser les choses ou juste dire « Hey, c'est pas ce que t'as vu. » Moi, la chose qui m'a fait le plus de bien, c'est pas nécessairement les grands discours, c'est « Ah, c'est tellement poche, Jasmin. » Là, on dirait que « Ok, je suis pas con. » Ouais. je suis pas cave.
Ça te replonge pas. Tu sais, des fois, il y a des gens qui nous disent
exact.
Pose pas trop de questions parce que tu vas ramener les gens dans un traumatisme.
Fait que c'est pour ça que la fois où je t'avais croisé au collège, je me suis dit j'en parlerai pas parce que c'est lundi, il fait beau, ça me tente pas de le replonger là-dedans.
Non, mais ça peut être un bon réflexe, mais il y a un moment aussi pour le faire. Puis il n'y a pas une personne qui est pareille. Moi, je sais que j'étais assez ouvert pour en jaser, puis je sais qu'on se connaissait pas beaucoup non plus. Donc peut-être j'aurais fait. Hey, on s'est jamais parlé à peu près, fait tu me parles de
mais,
ça.
Mais je regrette une chose, c'est j'aurais aimé ça de dire « Hey, Jasmin, j'ai une pensée pour toi, pour ta famille. »
Ah, merci.
Je pense que ça me touche.
Ça fait 15 ans, puis ça vient me chercher. Ouais. Donc, j'imagine que c'est des mots qui sont...
C'est là que je voulais aller. Ça fait 15 ans. Je me demandais si tu peux nous replacer un peu dans un contexte. 2009, ça se peut-tu?
2009, moi, en septembre 2009, ma vie allait super bien. Je faisais de la télé, je faisais de la radio... j'étais dans un band de musique depuis 10 ans avec ma sœur, puis au mois de septembre 2009, on a sorti notre album. Après 10 ans de travail, un lancement à Québec, à Montréal et dans notre patelin, Victoriaville. Et j'étais en feu. Ah, c'était le baptême du fils de ma sœur, puis elle m'avait demandé d'être parrain. Et c'est ça. J'avais dit oui, puis tout allait bien. Tout ça en septembre 2009. Et le 11 octobre, ma sœur s'enlève la vie. Donc, ça a été vraiment... Ça a vraiment été une montagne russe incroyable. Ça a été vraiment un... Ouais, ça a été une incompréhension.
Étiez-vous proches, j'imagine, qu'à faire de la musique
On se voyait
ensemble,
trois fois semaine. Voilà. On se voyait un peu comme les... Ben c'est pour les gens qui ont connu les années 70, mais les Marie-Claire et Richard Séguin des années 2000, là, on trippait, là. Moi, on se voyait
Jasmin, que pensais-tu du suicide avant que tu sois touché par le suicide d'un proche? Maintenant, qu'est-ce que tu penses du suicide?
Ah, c'est une excellente question. Ah ben, tu sais, c'est sûr que c'est des phrases qu'on entend déjà, mais je suis convaincu que les gens qui s'enlèvent la vie veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Ce que j'en pense, c'est sûr que c'est devenu très incarné. C'est comme si tous les mots qu'on entendait à la télévision, dans les entrevues, maintenant, c'est notre quotidien. Mais je pense qu'on est comme ça. Le cerveau humain est fait que... Tu sais, dans ma famille, il n'y a pas de cancer. J'entends parler du cancer. Je sais que ça existe. Mais tant que... Ma mère m'apprend pas qu'elle a un cancer ou quelqu'un de proche. On dirait que...
Tu peux pas le comprendre.
Ouais, il y a quelque chose qui se comprend pas ou tout ça. Ou comme si, puis là, je vais peser mes mots, mais comme si moi, ça m'arrivera pas.
Mais on est loin de ça.
Je sais pas, puis là, je vais faire attention à ce que je dis, mais je pense que, tu sais, on reçoit un appel. « Hey, devine quoi, il s'est passé telle chose. Quelqu'un est en vélo, il s'est fait frapper. » On pense pas que ça va arriver. Puis c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'on n'a pas à chaque jour à se lever avec la crainte que tout va nous arriver. Tu sais, il y a quelque chose d'important dans ce qu'on de ne pas avoir l'impression chaque matin de se lever puis que tout peut nous arriver. Mais quand ça nous arrive, j'ai l'impression que là, tout devient plus vrai que nature et c'est là qu'on tombe dans un tourbillon.
Ouais. Alexandra, j'ai le goût de te poser la question. Moi, j'ai eu la chance de jaser en entrevue. Des fois, je faisais des soirées avec le Centre de prévention du suicide, des gens qui s'étaient heureusement ratés. Puis qu'aujourd'hui, leur vie va bien. Puis on jasait avec eux pendant 2 heures, pendant 3 heures. Puis il y a des auditeurs qui nous écrivaient en disant « Tabarouette, moi j'ai pensé aussi à ça un jour, de m'enlever la vie. Moi aussi, ça m'est arrivé. » Les gens se sentaient vraiment interpellés. Mais ce qui me marquait chez les gens qui s'étaient heureusement ratés, c'est ce qu'ils ressentaient avant de l'essayer. Et eux avaient vraiment l'impression que, de par leur mort, la problématique qu'ils considéraient qu'ils étaient autour d'eux allait disparaître, puis ça allait faire du bien aux gens autour d'eux. Moi, ça m'avait frappé, ça. Est-ce que les gens qui pensent au suicide disent « Hey, je suis un boulet pour ces gens-là, puis après ça, ils vont être libérés une fois que je vais être parti. » Ça arrive-tu souvent, ce genre de commentaires-là?
Très souvent. Tu sais, les gens qui ont des idées suicidaires, c'est comme s'ils sont pris dans une espèce de boîte noire. Ils ont des lunettes fumées noires. Ils ont de la difficulté à voir qu'est-ce qu'il y a de positif autour d'eux parce qu'ils sont tellement envahis par cette souffrance-là qu'ils veulent qu'elle cesse, qu'ils sont pas capables de voir les autres autour. Puis même, ils en viennent à avoir des distorsions cognitives puis à se dire que les gens seraient mieux sans eux.
C'est fou
aussi.
Parce qu'on dirait que c'est fâchant pour l'entourage. Parce que tu te dis, hey, aujourd'hui, on est dans un univers où il y a tellement de ressources. Va chercher de l'aide. Il y en a. Il y en avait pas avant. Là. Il y en a, mais t'as raison. On dirait que ces gens-là, c'est comme si cette aide-là est juste même pas disponible.
Oui. Mais ça m'interpelle beaucoup parce que moi, j'en parle, puis je fais des petites rencontres, des témoignages. On appelle ça des conférences. J'aime pas le mot, mais tu sais, j'essaie de m'impliquer, sauf que après, des fois, les gens viennent me voir puis ils me disent « Ouais, mais Jasmin, il faut comprendre ce qui se passe cette chose. » Puis les gens ne réalisent pas ou ne pensent pas que parce que je fais ça, ben que j'ai jamais vécu. Mais j'ai fait une dépression, puis ça m'est déjà arrivé de penser au suicide. Les gens ne pensent pas parce que « Ah, il fait ça maintenant. » Non, attendez, là, tu sais, j'ai vécu. Puis moi, quand j'ai vécu ma profonde dépression, puisque ben c'était 2021, là, puisqu'à Lévis, il y a eu une pandémie, là, je sais pas si...
Oh mon Dieu, oui, c'était
Est-ce qu'on m'a dit que ça a dépassé Lévis, là, ça a traversé...
Parce que, oui, mais il y a un moment, j'avoue, j'avais vraiment, qu'on disait, des œillères, tu disais à peu près ça tout à l'heure, puis j'étais dans mon monde, puis je sais pas, il y avait tout, puis une chance, j'ai eu des formations, puis j'ai jasé avec du monde, puis j'avais l'histoire de ma sœur, une chance, j'ai eu ça, parce que tout mon corps et mon esprit me disaient de rester chez moi, puis de vivre ça tout seul.
Ça t'a-tu permis de la comprendre?
Ça m'a vraiment aidé. Est-ce que ça a permis de comprendre ma sœur? C'est une excellente question. Tu poses bien les bonnes questions ce matin.
J'essaie.
Mais ça fonctionne. Je sais pas quoi dire. Je pense que ça a amené probablement une certaine douceur.
Ouais.
Mais ce que j'ai réalisé en m'impliquant au fil des années, c'est que c'est pas parce qu'une personne a fait une tentative de suicide, puis une autre à côté qui ont la même histoire. Il n'y a pas une histoire qui est pareille.
Jasmin, est-ce que tu lui en as voulu?
Ah oui. Ah oui, j'étais en tabarnouche.
Parce que, tu sais, souvent, puis j'imagine qu'on t'a tellement posé la question, mais est-ce que tu avais perçu des signes? Est-ce que tu t'es senti coupable? Tu sais, on dirait que tu te demandes probablement quand ça arrive, où c'est que j'ai manqué, là? Puis j'imagine qu'il y a une frustration peut-être qui vient avec ça. Comment tu l'as vécu, cette portion-là?
C'était super intéressant, ça, Audrey. C'est super intéressant parce que y a, dans le deuil par suicide, souvent, on associe la culpabilité. Il y a beaucoup de gens qui se sentent très coupables. Moi, j'étais son frère. Fait qu'on avait une relation de... Tu sais, qu'on s'aime, mais quand on a 12 ans, 13 ans... « Ah, t'es con. Non, c'est toi qui es con. »«
Chien chat. »
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on s'aimait, là. C'était de l'amour, là. Mais
c'était conditionnel.
On savait pas comment se le dire. C'est comme, « Toi, t'es con. » Ah non, tu sais, c'était ça, là. Comme plusieurs d'entre nous, là. Ouais. C'est... Et je pense que c'est resté dans ma façon de vivre mon deuil. Parce que moi, j'étais comme, « T'es bien con. Pourquoi t'as fait ça, t'es con? » Alors que mes parents, c'était différent. D'avoir, puis j'ai pas la prétention aujourd'hui que vous arriverez avec. Je veux garder quand même mes distances, que c'est pas ma fille. Je comprends pas le deuil d'un enfant. Puis j'aimerais ça garder, laisser ça comme ça parce que c'est quelque chose de complètement différent. Moi, j'étais en tabarnouche, c'est ma sœur. Faites une connerie, si tu fais là. Mes parents, là, c'était différent parce que se sentir mal, je pense que oui. Tu sais, avoir vu un être naître. Être la personne qui l'a le plus accompagné pour finalement la voir partir. J'ai l'impression que je comprends tout à fait qu'on peut se sentir coupable parce qu'on a l'impression d'avoir été tout le temps là et on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent.
Serge Larochelle, c'est un invité que j'ai eu il y a de ça quelques années. Il était venu me présenter son livre à la radio, puis il m'avait raconté un peu son histoire. On connaît tous Henri Bourassa, là, le boulevard Henri Bourassa. Serge, un soir, était juste à côté de l'hôpital, puis il a décidé que c'était sur ce coin de rue que sa vie allait se terminer. Il a attendu de voir un camion qui descendait Henri Bourassa. Puis il s'est pitché en dessous du camion. Puis heureusement pour lui, le camionneur a réussi à l'éviter. Puis il est passé vraiment entre les roues de la remorque, là. Puis après ça, il s'est relevé. Puis il s'est sauvé parce que là, il a eu la peur de sa vie. Heureusement, il a réussi à faire des livres après ça pour s'expliquer. Mais j'y ai dit, mais Serge, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez prompt dans la vie, là. J'ai dit, Serge, voyons, sacrément, t'as-tu pensé au chauffeur de camion? Le gars est en train de conduire, puis il y a un gars qui se pitche devant son char.
Le traumatisme.
Le traumatisme. Je comprends que toi, tu veux mettre fin à tes jours, puis je trouve ça épouvantable, puis je suis content que tu sois là devant moi, mais t'as-tu pensé au gars? Il dit, Yann, on pense tellement pas aux dommages qu'on peut causer autour. T'es dans un genre de zone dans ta tête
un
où
trou noir,
il n'y a plus rien qui existe autour. Donc, les gens qui ont eu un proche qui a choisi le suicide ont toujours l'impression de dire « Mais Caroline, comment ça, il me laisse de même dans l'embarras? » Tu sais, j'ai plus mon frère, j'ai plus ma soeur, j'ai plus mon enfant, j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère. Mais ces gens-là, ils souffrent tellement en dedans que les impacts de leur mort,
ils voient pas ça.
Ils pensent même pas. Puis son livre est toujours disponible. Je suis allé voir, c'est « Faire face à la dépression », Serge Larochelle. C'est un super de bon livre.
Moi, je plaide coupable, là, et heureusement, j'ai jamais perdu quelqu'un de très proche par suicide. Par exemple, j'avais une de mes meilleures amies plus jeune, son copain de l'époque, son père s'est enlevé la vie. 11 ans après que son frère jumeau s'était enlevé la vie, puis ça avait été quelque chose d'assez frappant. Puis je me souviens que j'avais la mauvaise habitude de dire que c'est lâche. Moi, je trouvais ça lâche. J'en revenais pas. Je me disais, on a des ressources, t'as des gens qui t'aiment. On dirait que j'avais une frustration qui était, mon Dieu, incontrôlable face à ça, jusqu'à ce que tu vives peut-être toi-même justement un épisode où c'est plus difficile, puis que là, tu réalises que, oh, OK, il y a une détresse. Jasmin, j'ai une question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, OK? Parce qu'aujourd'hui, on parle, bon, de suicide avec le Centre de prévention du suicide dans le cadre du programme « Et moi, comment ça va? » C'est un programme qui s'adresse aux adultes, principalement aux hommes de 35 à 65 ans, parce que souvent, on dit que les hommes attendent d'être au bout du rouleau avant de lever la main, contrairement aux filles peut-être qui font plus attention à leurs émotions. Et là, je généralise beaucoup.
Il y a un plus grand cercle social aussi, les filles.
J'ai comme envie, pour encore une fois sensibiliser les gens à l'impact que ça peut avoir puis à tout ce qui est autour, peux-tu nous raconter peut-être un peu comment tu as appris cette nouvelle-là du décès de ta sœur, le contexte, si tu es à l'aise? Là, je ne veux pas te replonger non plus.
Ah, je l'ai appris. On la cherchait. Elle était dans le coin. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si tu veux concrètement savoir comment je l'ai appris. Ben, elle était passée une fin de semaine, un dimanche soir à Magog. Moi, j'étais à Québec. Et là, on m'apprend, même si je savais que ma sœur avait ses enjeux là, de santé. Elle avait déjà fait une tentative dans le passé.
Okay.
Puis on dirait, comme on disait même, mais c'était pas encore arrivé. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'on dirait que tant que ça ne nous arrive pas, on pense pas que ça nous arrive à nous. Ben, ma mère m'appelle et dit, là, Jasmin, je te dis qu'on cherche Marilyn. Puis une mère quand même bienveillante, là, qui est pas là, Jasmin, on cherche Marilyn. Mais là, je suis son autre enfant. Ouais. Fait que moi, après ça, j'en ai, puis je fais, elle était là, OK, ouf, je vais parler à mon fils. Là, Jasmin, Marilyn, on la cherche. C'était vraiment comme ça. Je fais, OK, ben oui, on la cherche. Puis ma sœur, là, c'est un peu une bohème. Tu sais, elle voit un champ un vignoble, puis elle dit, je vais aller courir dedans pendant une heure, puis je reviens plus tard, puis là, reviens, on sait pas où. Bonjour tout le monde! Je suis parti pendant 3 heures finalement. C'est un peu... Fait que ça, il aurait pu avoir quelque chose comme ça, qui interpelle un papillon, ou je sais pas. Mais là, le lendemain, le lendemain matin, pas encore là. Fait que ma mère me dit, hey, Jasmin, et moi qui étais un peu naïf là-dedans, va donc... parce qu'il y avait son chum et le petit bonhomme et le père de son chum qui était là. Va donc avec eux, là, prendre le pouls, être là, peut-être être là. J'ai dit, OK, ben oui, j'ai du temps, je vais y aller. Fait que j'y vais. Et c'est là que maintenant on reçoit un appel. Puis c'est la mère du chum, parce que je ne veux pas le nommer, là, il est pas, c'est la mère du chum de ma sœur. Et ça avait été quand même quelque chose. Parce que elle a changé, son fils a pris l'appel, je ne sais pas si je suis clair, mais la mère appelle, puis son fils prend le téléphone. Et elle a changé sa voix parce qu'elle n'était pas capable de dire à son fils qu'il arrivait. Fait qu'elle a voulu, elle a demandé que quelqu'un d'autre prenne le téléphone. Et c'est là que c'est le père qui a pris... Qui a pris le téléphone, puis que là, ils ont parlé un peu. Puis le père est revenu, puis il nous a dit, elle est morte, elle est décédée. Puis là, je me suis mis à courir partout, puis à sauter, puis à crier. Je me souviens de ça. J'ai comme, ah! Puis là, j'ai appelé mes parents, c'est moi qui voulais l'apprendre à mes parents. Puis après ça, j'ai su, tu sais, on en a parlé un peu. Là, après ça, ils ont vécu, je pense, entre eux un moment, mes parents ensemble, là, qui leur appartenaient. Par rapport à tout ça. Mais j'avais le goût de leur apprendre. J'avais le goût que ce soit moi puis de faire ça ensemble.
Que ça reste un peu dans la famille.
Oui,
c'est
ça.
Plus personnel.
C'est ça. Puis après ça, on a senti beaucoup de support là, tout de suite de plein de monde. Puis, est-ce que ça répond à ta question?
Absolument. Puis je voulais pas. En quoi ce deuil-là a changé ta perception de la vie, de la santé mentale, de toi-même avec les années?
Ah, mais ça a tout changé. Ça a complètement tout changé. C'est sûr, sur beaucoup plus de nuances, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de... J'allais dire de compréhension, mais c'est pas vrai. Beaucoup plus la compréhension que je comprends rien, puis qu'on n'a pas toutes les réponses. Puis moi, aujourd'hui, je peux dire que, malheureusement ou heureusement, et là, je suis pas en train de dire que rien n'arrive pour rien, s'il vous plaît, mais ça m'a laissé quand même un super pouvoir. Je peux donner un exemple pour dire, moi, je travaille, je coach entre autres un danse-études au secondaire. Puis les filles, j'ai une quarantaine de filles, quelques gars, tout ça, mais tu sais, je pense qu'ils ne sont pas trop au courant. Mais moi, je me suis rendu compte que quand j'ai une élève qui ne va pas très bien, haute tabarouette, si on utilise juste 10 % de notre cerveau, je vous jure qu'à ce moment-là, c'est 100 % de mon cerveau qui est ouvert pour trouver des solutions. Je parle à tout le monde. Je suis créatif. Je suis connecté vraiment sur elle, tu sais, sans trop en faire, mais j'essaie vraiment d'être là pour elle. Et ça, je sais que ça vient du fait que je ressens une détresse, ça me fait penser un peu à ma sœur, puis ça libère en moi une espèce d'énergie qui a le goût de faire une différence. Mm-hmm. Fait que ça m'a changé aussi, puis ça m'a donné ce super pouvoir, évidemment, là.
Alexandra Loranger, avec le Centre de prévention du suicide de Québec, vous adressez aux hommes comme aux femmes. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de gars qui passent à l'acte que de filles?
Bien, il y a certaines choses qui l'expliquent là, un peu plus.
Ouais.
C'est sûr que bon, la tranche d'âge qui nous inquiète le plus, hein, qui est surreprésentée dans les décès par suicide, c'est les hommes de 50 à 64 ans. Donc, c'est les hommes qui... généralement, vont véhiculer aussi des valeurs un peu plus traditionnelles. Tu sais, le fameux « un gars, ça pleure pas, faut s'organiser tout seul ». Si on est là-dedans, si c'est comme ça qu'on a grandi, ben par défaut, ça va être bien plus difficile de demander de l'aide. Mm. Puis on sait aussi que les hommes utilisent des moyens qui sont plus létaux que les femmes. Donc, on a un peu moins de chances d'intervenir avec les gars, entre autres, là, dans... en lien avec ces deux grands éléments-là.
Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour les hommes au centre de prévention du suicide?
Des programmes spécifiques...
Le programme « Et moi, comment ça va? »
Et moi, comment ça va? Ben, avant, il était vraiment centré seulement sur les hommes.
Ouais.
Maintenant, on l'élargit un petit peu plus parce qu'on veut s'adresser vraiment à une population générale. Mais bien entendu, on va cibler les entreprises qui ont peut-être un petit peu plus des hommes traditionnels aussi là, parmi eux. Là. Entre autres...
Je sais pas pourquoi tu viens me voir.
C'est ça. Parce que moi, je suis de cette génération-là.
Ouais.
T'es un gars, t'es supposé de gérer tes affaires. Puis bien souvent, tu sais, j'ai des chums aussi qui ont des émotions, puis ils ont tendance à le passer soit dans le sport, ce qui est assez sain, là.
Ouais.
Mais des fois, c'est dans l'alcool. Des fois, c'est dans la drogue, que ce soit le weed ou encore d'autres drogues pour relaxer. Mais c'est pas nécessairement les meilleures façons de se libérer de ses angoisses puis de ses démons, là.
Ben, c'est des moyens parmi tant d'autres. Puis on dirait que j'ai le goût de réagir avec une petite anecdote. Peux-tu me permettre de faire ça?
C'est toi qui mène! C'est toi qui mène!
Bien, récemment, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'étais avec des amis qui ont des enfants, puis on était dans un parc. Puis je voyais une maman avec ses deux jeunes enfants. Il y avait un petit garçon, une petite fille de peut-être 3-4 ans, là, tu sais, des jeunes enfants. Puis le garçon et la petite fille se sont chicanés, se sont fait mal mutuellement. Puis la façon dont on a réagi avec la petite fille puis avec le petit gars était complètement différente. La petite fille, on l'a pris dans nos bras. On lui a dit, ben voyons, ma belle, c'est pas grave, tu peux pleurer, on l'a cajolé. Puis le petit gars, ben on lui a dit, hey, on lui a secoué un peu les pantalons, là. Puis on a dit, c'est beau, tu peux retourner jouer. Puis ça s'est passé pas plus tard que la semaine passée. Avec une maman qui est probablement de ma génération aussi, donc fin vingtaine, début trentaine, qui on est de plus en plus ouvert, mais déjà, ce petit gars-là, la mère a fait de son mieux, là.
On le conditionne.
Mais on est en train de dire que tu peux pas vivre tes émotions, puis quand t'as mal, c'est pas grave, tu continues. Mais on dirait que ça m'a frappé quand même de voir ça. Fait que dès la petite enfance, puis ça, c'est comment on a été élevé, comment on transmet aussi. Mais juste ça, pour moi, ça va peut-être être un prédicteur pour ce petit gars-là qui va peut-être avoir un petit peu plus de misère à accepter ses émotions, puis il aurait peut-être aimé ça aussi. D'avoir un câlin, puis de prendre un petit 2 minutes pour pleurer un peu, puis continuer à jouer bien normalement après aussi, tu sais.
C'est super intéressant parce que, tu sais, si je me ramène à quand j'ai fait ma dépression, tout ça, puis il y avait vraiment quelque chose où il y avait une voix qui me disait « Non, reste seul. Sois là tout seul, chez toi. Tu sais, c'est tes affaires. » Et je sais pas si c'est... ou génétique, de la façon que mon cerveau, avec la testostérone, s'est construit, ou est l'éducation, ou un peu des deux. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si vous vous sentez comme ça, comme je me suis senti, comme des milliers de personnes peuvent se sentir, goffille, on n'est pas... ben c'est important de passer par-dessus cette conviction-là que vous avez du moment que je vais faire tout ça tout seul.
C'est la peur de déranger peut-être autour aussi ou de... Tu sais, des fois, tu veux pas tanner tes amis, tu veux pas tanner ta famille, tu te dis, c'est une pause, là, je me mettrai pas à me plaindre. Là.
Ouais, mais en tout cas, de ce que j'en ai vécu, c'est ça, je pense que tu réfléchis plus beaucoup quand t'es rendu là. Je pense même là, ton discours est assez cartésien. Je pense que si t'es capable de faire, hey, là, je veux pas déranger, ben là, t'es encore conscient, mais c'est juste que moi je suis un peu manuel. Fait que moi j'ai une voiture là, puis des fois elle fonctionne moins bien, fait que là je bidouille des trucs puis ça va bien, t'sais. Mais mon char, je suis capable de le bidouiller, mais là on parle de nos vies là, fait que bidouiller ma vie tout seul avec peut-être faible pourcentage que ça passe là, si on parle de nos vies là, je pense que ça vaut la peine de prendre toutes les chances.
Puis qu'est-ce qui t'a aidé, toi? T'sais, que ce soit après le départ de ta sœur ou que ce soit après ta dépression en 2021, quel cheminement t'as fait? Par où t'es passé?
Ah, oh, wow! Est-ce qu'on a 1h30? Non,
on
c'est
a
ça.
Encore du temps.
Oui, c'est ça. OK, répète ta question. Namasté.
Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton cheminement, que ce soit quand tu es tombé un peu plus bas après le décès de ta sœur ou
ah ouais.
en 2021 après ta dépression, parce que tu l'as dit, on est peu conscient, on s'isole. Faut que tu cesses de t'isoler à un moment donné. Fait qu'il a été où le déclic? Où est-ce que tu es allé chercher cette aide?
Les autres. Si t'en es sorti? Ça a été vraiment les autres. Ah, puis une chose que je dois vous dire, le petit bonhomme, là, son petit bonhomme à Marilyn, ma sœur, il est incroyable. Et c'est drôle parce que, encore là, réaction d'adulte, orgueilleux, quand les funérailles sont passées, tu sais, il y avait 14 mois quand sa mère est décédée. Et là, on était là, puis on le regardait, puis on disait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, chienne de vie! Chienne de vie! Hey, il avait une capacité d'adaptation beaucoup plus grande que la nôtre. Mm. Tu sais, c'était la vie qui continue. Dès qu'il était là, là, il n'y a plus rien d'autre qui existait. Puis il nous ramenait, ah, j'ai faim. Hein? Ah, il est bon, faut changer la couche. Tu sais, c'était la vie.
C'est le moment présent.
C'est le moment présent. Et c'était, et je le dis encore une fois, merveilleux. C'est le dernier souvenir vivant de ma sœur. Et ce petit gars-là, il nous a tous sauvés. Fait qu'au début, on était là, qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, ce qu'on se disait, c'est, j'ai de la peine. Mais je suis un adulte, j'ai trop de couches d'oignons, d'orgueil, tout ça. Fait que là, OK. Mais finalement, tu sais, le petit bonhomme qu'on voulait aider parce que c'est lui qui avait le plus de besoins, hey, il m'a pas mal plus aidé, moi, que je l'ai aidé au final.
Alexandra, le taux de mortalité par suicide, c'est 2 fois plus élevé que le taux de mortalité sur les routes. Le suicide, on l'a dit tantôt, ça fait pas vraiment de distinction. Là, ça touche toutes les catégories d'âge et ça touche toutes les classes sociales. Avec le Centre de prévention du suicide, bon, vous offrez une ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les gens qui filent vraiment pas. Vous soutenez aussi les personnes qui sont endeuillées par le suicide, comme Jasmin, et vous formez des sentinelles. Puis j'entends Jasmin présentement, il parlait de ces jeunes étudiantes là, qui vont à l'école avec un cours de danse, de ce que je comprends. Ouais, puis Jasmin est devenu un sentinelle. Il regarde constamment autour de lui à savoir s'il y a des gens qui vont et à savoir s'il y a des gens qui ne vont pas. Des fois, ça peut être achalant. Mais, mais quand il tombe sur la personne qui ne file pas, je veux dire, Jasmin représente tout pour cette personne-là parce qu'il y a quelqu'un de ressource qui est là pour les aider. Les sentinelles, vous formez ça comment?
En fait... Bien, pour devenir un sentinelle en prévention du suicide, la porte d'entrée, c'est vraiment de communiquer avec nous. Fait qu'à ce moment-là, on pourra inscrire la personne dans une cohorte de formation, là. Donc, c'est une formation de 7 heures. Donc, c'est une journée où l'objectif vraiment de la formation, c'est en premier lieu de prendre le temps de démystifier c'est quoi le suicide. C'est quoi aussi nos croyances, nos valeurs? Parce que ben on a tous des biais sociaux hein, en lien avec le suicide, parce que ben les statistiques nous le disent, hein, 1 Québécois sur 10 par année va être touché de près ou de loin par la problématique. Fait que c'est sûr que à quelque part, il y a quelqu'un dans ces groupes-là qui a une espèce de sensibilité un peu plus grande de par son vécu aussi. Fait que ensuite, ben on se permet de placer c'est quoi les croyances, de voir un peu plus comment ça se traduit pour vrai. T'sais, chez quelqu'un qui pense au suicide, puis encore là, on n'a pas la prétention ben, d'être des experts dans le sens où chaque personne qui pense au suicide est différente d'une autre aussi. Là.
Mais pas un manuel.
Ben non, malheureusement. On aimerait donc ça qu'il y ait un visage sur le suicide pour qu'on soit capable de les trouver rapidement, puis arriver à un Québec sans suicide, là, sans SNS, là, bien entendu. Là. Puis, à la suite de ça, ben, c'est là où on va regarder c'est quoi les meilleures techniques pour ouvrir la discussion avec quelqu'un qui ne va pas. De voir comment on peut ouvrir cette discussion-là. Puis c'est quoi les meilleures pratiques aussi pour aller poser la question.
Est-ce qu'on peut appeler le centre de suicide, Alexandra, pour ça? Moi, mettons, j'ai un proche demain matin là, qui je vois que ça ne file pas puis je m'inquiète profondément. On peut-tu venir prendre conseil? Parce que honnêtement, je m'inquiète pour Yann demain matin. J'ai aucune foutue idée de comment aborder ça de façon délicate, là.
Absolument. Bien, on n'a même pas besoin de s'inquiéter profondément, j'ai envie de dire. S'il y a une petite lumière qui nous allume en tête, puis qu'on se dit « Ah, j'ai l'impression que cette personne-là ne file pas », prenez le temps de nous appeler, on va se déposer ensemble. On va prendre le temps vraiment de regarder qu'est-ce qui vous inquiète, comment ça vous faites ces liens-là. Ensuite de ça, on va donner des conseils justement sur c'est quand le bon moment d'ouvrir cette discussion-là. Puis en fait, il n'y a pas vraiment de bon moment non plus. On va regarder qu'est-ce qui est le moins pire, j'ai envie de dire. Puis ensuite, bien entendu, on va faire aussi un petit suivi avec le proche. Là. On ne voudra pas le laisser tout seul à aller poser cette question-là à son ami.
on va se le dire, il y a une peur des fois d'aborder ça avec des proches parce qu'il y a des gens qui se referment. Il y a des gens qui sont comme des huîtres quand tu les exposes à ça. Là, on dirait qu'ils veulent plus s'ouvrir. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Là. Et la panique. Parce que là, tu viens de perdre le contact avec cette personne-là. Elle ne veut plus te parler. Tu l'as comme insulté en voulant aider à un certain point. Là. Fait qu'on dirait
c'est
que
intéressant,
ouais. C'est touché. Là. Fait que de savoir qu'il y a une ressource qui peut peut-être nous aider un peu à mettre les bons mots puis à avoir la bonne approche. Alexandra, j'ai envie de te demander, tu sais, souvent on demande aux gens de faire des dons. Des dons pour plein d'organismes tout le temps, puis on a besoin des dons parce que sinon on serait pas capable d'aider les gens à différents niveaux. Mais peux-tu nous dire concrètement justement cet argent-là qu'on donne au Centre de prévention du suicide sert à quoi?
T'es payé comment? Ça fait 10 ans que tu travailles pour le Centre de prévention du suicide. Ton argent vient d'où?
Oui. Si vous me permettez, j'aimerais juste ça, rediscuter du commentaire que tu as nommé, Audrey,
absolument,
juste avant. Parce que je voudrais pas qu'il y ait des gens qui restent avec... je vais peut-être créer une réaction négative si j'ouvre la discussion.
C'est bon, t'as raison.
Parce que c'est un mythe, en fait, qu'on véhicule en ce moment.
Bon.
Les gens, tu sais, qui pensent au suicide, en grande majorité, ils se sentent seuls, ils se sentent pris, ils vivent de la honte aussi en lien avec leurs idées suicidaires. Puis plus souvent qu'autrement, quand on se permet d'ouvrir la discussion, de bien ouvrir la discussion, il y a une espèce d'effet de soulagement, de « Ah, je peux pas vivre ça tout seul, je peux partager ça avec quelqu'un d'autre. » Parce que les gens, ben on entend... Hein, tout ce qui ils sont conscients de c'est quoi la pensée populaire en lien avec le suicide. Tu l'as dit tantôt, toi, tu croyais que c'était lâche. Mmh. On entend aussi des fois, c'est du monde qui veut juste attirer l'attention ou pour certaines personnes, ça peut être courageux même, le suicide, mais c'est pas du courage, c'est pas de la lâcheté, c'est pas d'attirer l'attention, c'est quelqu'un qui vit un profond malaise puis qui a besoin d'aide.
Ouais, je regarde les commentaires, là, tu sais, la vie n'a plus aucun sens, bientôt je vais avoir la paix, je serais peut-être mieux mort, la vie en vaut pas vraiment la peine, la vie ne m'apporte aucun plaisir, je suis fatigué de la vie, je veux en finir, je n'ai plus de raison de continuer. Ces mots-là sont juste hallucinants à entendre, mais c'est un indice comme quoi on peut appeler la ligne du Centre de prévention du suicide.
Ouais.
On veut...
attendre. Ouais. Excuse-moi, ne pas attendre d'être rendu dans le vortex où là, on réfléchit moins.
Exact.
Mais si vous sentez, là, t'sais, si vous avez des doutes, « Hey, je devrais être appelé.
Ouais. »
Appelez! La question est là. Oui, des fois, on ne veut pas déranger. Appelez, faites-le.
C'est confidentiel. Puis dans le pire des cas, ça va vous prendre un peu de temps.
Appelez ou textez. T'sais, appelez ou textez. Moi, je serais plus du genre à texter. Mais appelez ou textez. Moi, ce que je veux savoir, toi, tu travailles là depuis 10 ans. Vous avez une ligne téléphonique pour les gens de la grande région de Québec. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a plein de programmes auxquels vous participez. Vous avez des employés. Vous faites comment pour être financé?
Ce qui est le fun avec la prévention du suicide, entre guillemets, là, fun, là, c'est que c'est une cause un peu sexy, là, dans le sens où c'est à l'avant-plan dans tous les projets du ministère de la Santé et des services sociaux. On l'a dit, c'est une des plus grandes causes de mortalité au Québec. Fait que, bien entendu, on est chanceux, on a quand même du financement qui est récurrent. Fait que c'est en partie financé par le gouvernement, bien entendu. Cela dit, tous les services qui sont offerts aux endeuillés, là, entre autres, le suivi, le groupe aussi, parce que je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais on offre un groupe pour les gens qui sont endeuillés par suicide. Bien ça, c'est directement financé avec vos dons. En fait. Donc, ça vient de la fondation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les dons? Bien entendu, on finance les services de deuil. On finance aussi nos programmes d'activité, entre autres, Et moi, comment ça va? On finance aussi les programmes qu'on offre dans les écoles secondaires parce que, bien entendu, on va aussi chercher nos plus jeunes. Puis en ce moment, on n'en a pas parlé. On en a parlé un petit peu avec la gang de Dollars le matin la semaine passée, par exemple. Mais... en ce moment, une des stats qui est préoccupante, c'est nos jeunes filles, les adolescentes.
Ah oui.
C'est une statistique qui émerge de plus en plus. C'est ce groupe de population-là qui se présente le plus dans les hospitalisations pour des blessures auto-infligées.
Donc, je peux aller sur Google, taper « Centre de prévention du suicide de Québec », puis là, il y a « Aider les services, l'actualité, les à propos de la fondation ». Toutes les informations sont là, mais il y a surtout un beau petit piton vert, c'est écrit « Don ». Puis on peut faire plusieurs types de dons. Les dons généraux,
euros, des dons en mémoire, des dons pour des dons par chèque. Les gens qui désirent payer par chèque, ben, c'est possible. L'adresse est là sur le Centre de prévention du suicide de Québec. Vous faites des choses qui sont absolument formidables. Puis, Jasmin, que tu continues comme ça après 15 ans à t'impliquer puis à être une sentinelle pour nos jeunes filles. T'as-tu des défauts, toi?
Ah, j'en ai plein.
Quand je te regarde, là, quand je suis à côté de toi, je te trouve gossant.
Ah ouais, c'est... ben c'est mutuel. Parce que je trouve que tu fais super bien ta job, puis c'est super le fun.
Mais là, mais t'as-tu des défauts, des têtes depuis 15 ans? C'est incroyable ce que tu fais. Je te félicite de t'impliquer comme ça.
Ça fait plaisir. Puis sachez que, appelez, tu sais, Alexandra, je terminerai avec ça. C'est quoi? C'est 99,99% des gens qui appellent, puis... Tu sais, ils le font pas, là. Ça vaut la peine d'appeler. Ça fait une immense différence. Puis, il n'y a jamais de petite raison pour appeler. Allez-y.
Textez si vous êtes gêné.
Ouais. Ouais. Allez chercher de l'aide, c'est toujours la bonne solution.
J'ai envie, Jasmin, de te poser une dernière question parce que c'est revenu beaucoup sur le Twitch et par texto par rapport au deuil.
Ouais.
Puis, je ne sais pas à quel point le Centre de prévention du suicide est là-dedans. Je sais qu'il y a Deuil Jeunesse, il y a plein d'autres organismes qui aident par rapport au deuil, mais il y a quelqu'un qui nous demande, le deuil, est-ce que c'est long et comment le faire et comment le gérer? Je pense que chacun a son processus pour ça. Peut-être donner ta réponse personnelle à ce niveau-là.
Oh wow, comment le gérer? J'ai pas été... C'est pas parce que je m'implique que j'ai été bon nécessairement.
Non, je pense que personne qui est bon, ça peut te rassurer.
C'est
ça,
c'est pas... Des fois, on est là, puis... Moi, les pensées magiques, les phrases toutes faites, ça m'énervait. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que je me suis écouté d'abord, puis je pense que j'ai réussi à trouver ce qui me faisait du bien. Et j'ai une phrase, quelqu'un qui me disait, « Jasmin, essaie de trouver une chose qui te fait du bien par jour, puis des petits bonheurs de rien, là, ça pourrait être un bon café. » Moi, on s'en fout là, de comment... Tu passes à travers ta journée alors que tu vis un deuil, puis que t'es, moi j'appelle ça un peu dans l'abysse, puis tu vois pas la lumière, puis tu cherches, mais t'en vois pas la lumière, fait que tu patauges, puis t'attends. Ben si vous êtes capable de trouver des petits bonheurs, ben la journée va passer, puis le lendemain il va avoir une autre journée, puis ça va continuer. Puis moi là, c'est pas obligé d'être, je vais faire de l'humanitaire en Haïti, ou je vais vivre un... Si aller t'entraîner, puis te faire des pecs, ça te fait du
c'est
bien, puis ça donne un sens à ta journée, vas-y. Si de prendre un bubble tea, tu sais, des fois, on cherche les grandes façons de se remettre sur les rails. Puis des fois, c'est les petits détails. Regardez un match du Canadien ou des Nordiques en reprise.
Ouais.
Si c'est ça, vas-y. Si l'important, c'est d'avoir une petite lueur puis de la trouver.
Si tu me permets de faire du pouce sur ce que tu dis, Jasmin, là, je pense qu'il n'y a pas de temps. Là. Je pense que tu peux être en deuil toute une vie parce que cette personne-là va te manquer ici et là de toute manière. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis dans les petites choses parce que souvent, j'ai connu des gens qui ont eu le réflexe de boucher le trou. Travailler plus, essayer de combler ce trou-là. Puis moi, il y a un an, j'ai perdu trois personnes en dedans d'un mois et demi. Des gens plus proches que d'autres là-dedans. Puis je sais que le deuil ne sera jamais terminé, mais s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est le moment où j'ai comme accepté de peser sur pause puis de, je m'excuse, là, mais de crisser mon camp trois semaines pour rien faire de particulier, là, d'en boire une shot, de faire justement ces petites choses-là, de quitter ma vie le temps de trois semaines, de mettre une pause, là, d'arrêter le temps, là, puis de prendre le temps d'avaler puis de réaliser ce qui venait de se passer. Là. Souvent, si on le fait pas, on a une tendance à vouloir, au contraire, reprendre la vie le plus vite possible parce qu'il faut qu'à l'avance, il faut qu'on travaille, il faut qu'on aille au sport des enfants, faut qu'on... ça va vite, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu dis quand tu parles des petits bonheurs. C'est cliché, mais c'est vrai.
Ben, tu sais, c'est qu'on peut s'en... Tu sais, des fois, je comprends. Moi aussi, il y a des moments où ça m'a fait du bien de m'engourdir.
Ben oui.
Tu sais, pendant deux, trois semaines, j'avais pas le goût d'y penser. Moi, je me suis lancé dans la danse swing acrobatique.
Incroyable.
Ouais, parce que ma sœur n'avait aucun talent en danse, en fait. Wow. Fait que j'ai l'impression, bon, et puis là, maintenant, je vais faire quelque chose qu'elle n'était pas capable de faire. Tiens. j'ai été champion canadien. Non, mais tu sais, je me suis donné à fond là-dedans. Mais je pense que de s'engourdir pendant deux, trois semaines, faire des choses, pourquoi pas?
Ouais, exact.
Mais d'avoir des fois sentir que, OK, là, je vais aller visiter mon deuil un peu. Ben, d'avoir le guts de le faire, je pense qu'aussi, ça vaut la peine. Puis de le faire entouré, comme on disait. Peut-être pas vivre son deuil tout seul dans son coin, ça peut isoler tellement. Tu sais, il y a des gens qui vivent ça avec nous. Moi, mes parents avaient de la peine. Les gens autour de moi avaient de la peine. Puis au lieu d'être comme, OK, ben moi, ma peine est différente des autres, non, on a une peine commune. puis on peut la vivre ensemble. Ça, ça peut faire du bien aussi.
Exact. Jasmin Hinz, endeuillé du suicide de sa sœur. C'est ton titre?
Oui.
Alexandra Loranger, qui est formatrice intervenante à la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec. Je te remercie pour toutes ces années de service-là. Merci aussi à Jasmin. Mais salutations à toute la gang du Centre de prévention du suicide. Vous travaillez extrêmement fort. Vous avez votre raison d'être, puis vous n'avez pas idée à quel point vous aidez des gens. On invite les gens qui peuvent donner un don au Centre de prévention du suicide de Québec à le faire. Ça peut se faire via le site Internet. Tapez juste Centre de prévention du suicide, vous allez tomber dessus sans aucun problème. Sinon, si vous avez des difficultés d'un bord comme de l'autre, vous y pensez, vous avez quelqu'un qui y pense, c'est 1-866-APPEL. Donc, 1-866-277-3553. Ouais. C'est 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Si vous êtes un peu gêné comme moi, ben c'est possible de texter tout simplement et de clavarder directement si vous allez sur Internet. Donc, un gros merci d'être passé.
Ben, merci.
Ben, Yannick, Audrey, Boulevard, merci beaucoup. Puis bravo, Centre de prévention du suicide. Moi, je fais une petite conférence que je promène des fois, là. Mais vous, c'est à chaque jour. Puis après ça, vous retournez chez vous, puis vous avez une vie, là. Puis il faut mettre ça. Ben non, mais c'est ça, moi, je trouve ça. C'est eux, les super-héros. Oui. Puis, donc, bravo pour ce que vous faites. Puis on les encourage. Ça vaut tellement la peine.
En même temps, ben, merci à vous autres, parce que vous faites la prévention du suicide avec nous aussi. De nous inviter comme ça, de vous allier avec nous. Merci. C'est important. Puis tantôt, je vous entendais parler de ça fait combien, ça prend combien de temps, puis tout ça. Puis vous avez tellement bien répondu, vous pourriez faire ma job. Mais effectivement, il n'y a pas de temps. Puis l'important, c'est de s'accorder des moments de break.
Ouais. J'ai-tu le droit de faire des jokes plates, mettons que je prends la ligne la nuit, là? Ben?
Oui, mais peut-être qu'on rira pas, là.
Mais, à risque et péril.
Ouais, mais on espère qu'il y a des gens qui nous appellent pas en faisant des fausses tentatives, par exemple.
Non, c'est ça.
Non, mais je parle comme intervenant. Je pourrais faire ça, mais...
Oui, c'est ça.
Oui, allô, j'écoute. J'imagine ça va pas.
Oh my God!
Puis, vous seriez étonnés quand même, hein, parce que la prévention du suicide, pour moi, c'est beau. Puis on rit avec des gens qui sont en crise aussi. On peut rire en parlant de prévention du suicide. C'est important.
Un gros merci d'être passé.
Merci à vous.
Merci.
Allez. Bye bye.
Avec Marceau et Audrey. Oh
boy! La pêche qui a travaillé très fort. Très, très fort. Tu reprends ça à 14h avec Denis?
Oui. Oui. Tu bouges pas.
Tu bougeras pas.
Je reste ici.
C'est promis.
Promis.
J'ai fait une promesse aux auditeurs, moi, tantôt.
Oui, il faut la réaliser avant de quitter. Hein,
OK. Ben, attends un peu. On va demander aux auditeurs d'identifier cette chanson-là. 418-971-1021. 418-971-1021. Ça me prend le titre que vous m'envoyez par texto.
Oh là, franchement, regarde. Tu me laisses, là. Hey, c'est donné ramassé à terre.
Pardon?
Voyons.
Hey, t'es qui pour me juger?
Je te juge pas. T'es allé facile.
Je sais même pas le titre de cette chanson-là.
Arrête.
Papa Roach, qui est de retour à Québec avec la tournée de Rise of the Roach le 22 juillet à l'Agora du Port de Québec. C'est une célébration des 25 ans de l'album Infest. C'est une production plus grandiose que jamais qui vous attend. Les billets sont en vente sur evenco.ca. On va être là, on va être sur place, puis on va jammer avec vous autres, c'est clair. Ne manquez pas Papa Roach et la tournée de Rise of the Roach. Donc, j'ai une paire de billets. Maintenant, 418-971-1021. C'est quoi le titre de cette chanson-là?
Ah, là, faut que je choisisse quelqu'un.
Mettez de l'émotion. D'habitude, quand il y a de l'émotion,
non,
Audrey. Là. OK. Fait qu'il te reste à choisir le grand gagnant. 418-971-1021 par texto. Bye, Audrey.
Salut, Yann.
À 14h.
À ta vie. Dans le retour. Alors, là,